Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle chronique du Pays Toulousain en compagnie d'Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Grenet, Mathieu Grenet de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour Monsieur Grenet.
Bonjour et merci de me recevoir.
Alors vous êtes maître de conférence à Toulouse-Jean Jaurès en histoire moderne et vous avez un champ de recherche autour de, des mobilités internationales, des contacts interculturels dans l'espace méditerranéen et puis parmi, j'imagine, d'autres champs de recherche et des enseignements. Et vous avez commis un petit livre aux éditions Midi-Pyrénéennes qui s'intitule 1721, un visiteur inattendu, l'ambassadeur du sultan. Alors nous allons un peu voir ce sultan à Toulouse aujourd'hui.
Oui, d'autant que c'est un sujet très inattendu, que j'avoue carrément, je ne connaissais pas, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, moi, je vais vous écouter avec plaisir et puis vous interroger d'abord sur la raison de ce déplacement qui peut paraître un petit peu exotique à Toulouse. Bon, pourquoi un ambassadeur à Toulouse? Quel est le contexte général qui fait qu'un ambassadeur turc vient en France? Voilà.
Bien sûr.
Je vous laisse raconter.
Bien sûr, merci beaucoup. Alors effectivement, c'est l'arrivée de l'ambassadeur ottoman à Toulouse a tout d'un imprévu dans la mesure où il n'avait rien à faire ici. C'est un ambassadeur qui est envoyé par le sultan, à l'époque Ahmed III, pour sceller une vieille alliance avec le royaume de France, alliance qui remonte du reste au XVIe siècle, à François Ier. Et cet ambassadeur arrive sur son beau bateau. Il n'est pas attendu de pied ferme en France où on ne se réjouit pas d'avoir à entretenir un ambassadeur de plus qui vient à la cour. Louis XV, Louis XIV est mort depuis peu. Louis XV est tout jeune, c'est un enfant de 10 ans. Il y a ce qu'on appelle la régence à l'époque. Donc voilà, c'est un ambassadeur qui n'est pas attendu de pied ferme, mais c'est un peu un invité surprise et c'est d'autant plus un invité surprise que l'année précédant son arrivée à Marseille, il y a eu à Marseille une peste qui a décimé littéralement la population. Or, cette peste venait elle-même d'Orient, de l'Empire ottoman. Et donc, eh bien, on déroute rapidement l'ambassadeur qui allait débarquer
donc
à Marseille.
Il arrive par la mer, forcément.
Exactement, il arrive par bateau, par la voie que tous les ambassadeurs ont empruntée jusqu'à lui. Il arrive par Toulon, puis Marseille, puis il s'apprête à remonter la vallée du Rhône jusqu'à Paris. Et on décide de l'arrêter avant Marseille et de le dérouter vers Sète.
On est à quel moment de l'année 1721?
Alors on est à l'hiver 1720-1721 et là on est en janvier 1720.
La peste n'est pas encore terminée.
La peste n'est pas encore terminée et c'est justement ce qui motive l'avis très négatif qui a été mis quant à son arrivée à Marseille. C'est que Marseille a connu un hiver 1720 absolument cataclysmique et que la ville se remet à peine. On voit à peine poindre le début d'une reprise, notamment démographique, puisque ça a été une saignée à blanc dans la population. Et ce personnage arrive un peu comme un cheveu sur la soupe d'un horizon qui est assimilé à un horizon assez menaçant. C'est celui de l'Orient qui a apporté la peste, puisqu'on sait que le bateau qui transportait la peste à Marseille en 1720 venait justement de Smyrne.
Oui, donc on le met en quarantaine.
On le met en quarantaine, on lui fait faire une première quarantaine à Marseille.
Ah, première, il y en a une deuxième. Donc.
Exactement, on lui en fait faire une deuxième quand il arrive à Sète. On l'envoie sur l'île de Maglone. Alors le malheureux, écoutez, il est pas si mal loti que cela, si ce n'est qu'il s'ennuie à son sueur. On l'envoie dans l'île de Maglone, on l'envoie dans la cathédrale Saint-Paul de l'île de Maglone et on lui demande d'accomplir une vraie quarantaine, c'est-à-dire 40 jours
fixes. Ah oui, oui. Alors, je suppose que ce personnage insigne n'est pas tout seul. Il est accompagné.
Évidemment, il se promène accompagné. Il se promène même accompagné de pratiquement une centaine de personnes.
Ah
dont son fils et tout un tas de personnages qui sont venus jusqu'à le préposer au bourrage de sa pipe. Et il faut aussi imaginer quelqu'un qui, en bon musulman, est venu avec son cuisinier, avec son boucher, avec tout un tas de personnages qui vont aussi remplir des rôles qui sont des rôles de représentation. Il va avoir des divers maîtres d'hôtel, il va avoir des domestiques, il va avoir des gardes-tentes. Il est venu avec une pléthore d'individus et même, dit-on aussi, quelques femmes qui se seraient glissées dans l'ambassade et qui sont des femmes qui sont elles-mêmes, qui reviennent d'Orient. Alors, quelques Françaises, il y a tout plein d'histoires qui fourmillent autour de cette dorsale de l'ambassadeur.
Alors, je suppose que un voyage diplomatique venant d'un pays aussi important que la Turquie doit être soigneusement réglé, il doit y avoir des impératifs protocolaires. Comment est-ce que ça se passe? Et comment ça se passe en compte tenu du nombre de l'escorte, qui est fabuleux.
Vous touchez là le nœud du problème, c'est qu'il faut recevoir cet ambassadeur avec faste. Une fois de plus, cet ambassadeur n'est pas particulièrement attendu. C'est même une ambassade un peu surprise que Ahmed III déclenche. Cet ambassadeur n'est pas particulièrement donc attendu, il faut l'accueillir avec faste et à la fois il faut veiller à l'économie puisqu'il incombe au pays qui accueille de l'entretien, enfin des frais d'entretien. Et donc il faut le nourrir, lui et sa suite, il faut les loger, donc on va réquisitionner des maisons, on va évidemment réquisitionner des quantités faramineuses de nourriture. On va en profiter d'ailleurs pour faire du placement de produits, puisque par exemple quand il est à Maglone, eh bien on essaye de lui proposer des tranches de Roquefort en se demandant si par hasard il n'y aurait pas là un débouché vers les marchés de l'Orient, exactement.
Je crois que c'est un cadeau honorifique pour les capitales de Toulouse que d'offrir du Roquefort avec des confitures.
C'est tout à fait vrai, et pour les consuls de Rodez. Ouais. Donc on l'a très bien traité.
Il est à Maglone, il fait sa deuxième quarantaine.
Tout à fait.
Et puis, on le déroute sur Toulouse, j'ai bien compris.
On le déroute sur Toulouse via le canal royal.
Surprise quand même pour tous les parlementaires et les capitouls toulousains.
D'autant plus qu'eux-mêmes ne sont pas dans la ville. C'est-à-dire qu'on le met à bord du canal, de plusieurs péniches sur le canal royal
quand même.
Du Languedoc, exactement. Il s'agit aussi de montrer le génie français, etc. Merveille technique qui du reste a été achevée à peine 40 ans auparavant.
Oui,
c'est
oui,
vraiment
oui.
un bijou. Lui-même, puisqu'on a les relevés, on a le carnet de notes de cet ambassadeur, est absolument époustouflé par ce qu'il voit, trouve que c'est vraiment du génie civil, sans mauvais jeu de mots, à l'état brut, va faire un rapport absolument dithyrambique aux autorités ottomanes. Et bon an mal an, au bout d'une semaine, il va finir par arriver à Toulouse, le 1er février 1721.
Il n'a pas mis le pied sur la terre ferme, si je puis dire. Il est resté sur le canal du Midi. Il n'a pas visité Béziers.
Il s'est à peine arrêté dans quelques villes et villages, notamment au Somail, par exemple. On a réquisitionné tout le Somail pour le faire dormir, lui et sa suite. Mais il n'est pas descendu. Par contre, on sait, les riverains du canal se sont pressés sur le canal pour le voir passer lentement et majestueusement sur cette
plage. Oui. Le spectacle devait être assez étonnant.
Ah oui, tout à fait.
Et donc, alors, il arrive à Toulouse, au terme de sa navigation.
Exactement.
Sur le canal royal.
Au port Saint-Étienne, et là, personne pour l'accueillir, puisque les édiles de la ville sont partis, ont été convoqués aux états du Languedoc, à Montpellier, et que la ville est à peu près vide de ses élites.
Alors, qui accomplit les rites diplomatiques qui fait l'éloge, qui fait les discours, qui fait personne?
Eh bien justement, alors on a toute une catégorie de personnages de second rang qui ne sont pas les intendants de la province, qui ne sont pas les grands gouverneurs. On a quelques capitouls qui sont restés, mais péniblement, visiblement, qui ont été rappelés. Et tout cela se passe dans un espèce de vide qui est très intéressant, puisque ce personnage est pratiquement livré à lui-même dans Toulouse. Et on se demande bien qu'est-ce qu'on va lui faire faire. Et donc, on le promène par la ville, on lui montre le Bazacle, on lui montre les ponts de pierre, on lui montre toute une série de la grande place, on lui montre toute une série de bâtiments en espérant qu'il va s'y intéresser. Mais à la fois, le problème, c'est les 5 jours de son séjour à Toulouse sont 5 jours en fait nécessaires pour le transbordement de ses affaires.
Oui.
Depuis le canal royal
du
Languedoc,
sur la Garonne.
Vers le canal sur la Garonne.
Oui.
Et donc, c'est pratiquement incompressible. Et très rapidement, au bout de 2 jours, on se rend compte qu'on n'a plus grand-chose à lui faire faire. Et là, on l'invite de demeure en demeure, on lui offre des repas, mais à la fois, c'est quelqu'un qui mange par terre, qui mange avec les doigts. Donc, il y a un exotisme évident et la bonne société toulousaine se presse à ses repas pour le regarder manger. Et c'est lui qui devient l'objet du spectacle, alors même qu'on aurait dû lui offrir la ville en spectacle. Et là, on a un renversement qui est assez intéressant.
Oui, alors il a peut-être pensé qu'on le regardait manger comme il était d'usage à la cour française.
Alors, il pense qu'on l'embête beaucoup parce qu'il ne peut pas manger en paix.
Et lui
voudrait beaucoup avoir des jeunes filles de la bonne société, puisque c'est une compagnie dont il est un peu privé dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire un commerce mondain avec des femmes, en tout bien tout honneur du reste, hein, et lui voudrait beaucoup avoir des jeunes filles à sa table et partager un repas, et en fait, eh bien, on passe son temps à défiler pour le regarder manger, et il en a un petit peu marre d'être considéré comme un animal sauvage ou curieux dans sa cage. Et donc il y a tout un tas de malentendus. Et
où est-il logé, au fait ?
Il est logé à l'hôtel de Pierre à rue de la Dolbade, exactement. Donc on lui donne très bel hôtel particulier, exactement, qui est un des rares à ne pas être à détonner un peu par son architecture. Oui. Et on essaye aussi d'accommoder le logement à ses besoins. Donc on va scier les pieds des canapés pour en faire des sofas, en se disant que, ma foi, c'est comme ça qu'on vit dans l'Empire ottoman. Donc il y a tout un exotisme ou un orientalisme des Toulousains au contact de ces personnages, en sachant que, comme on dit à Toulouse, on n'a jamais vu de Turc. Et là, les mémoires des Toulousains sont pleins, justement, de cette allusion au fait que ce soit le premier ottoman qui passe dans la ville.
Oui, puis l'habillement, au-delà des coutumes.
Exactement.
Voilà, la partie vraiment visible de tout cet air. Et alors, l'équipage.
Ah ben, l'équipage suit, l'équipage est turbulent. Ces gens-là, évidemment, sont livrés à eux-mêmes dans les rues, boivent, s'acoquinent avec des femmes locales. Donc, il y a aussi tout un problème de contrôle social, si bien qu'on est vraiment très, très content quand, au bout de 5 jours, eh bien, le 5 février, l'ambassadeur repart Bordeaux, Poitiers, Paris.
Est-ce qu'il retire quelque chose ? Est-ce qu'on a un témoignage de sa part, de son impression sur Toulouse ? J'imagine qu'elle n'est pas excellente.
Son impression de Toulouse est quelque peu mesurée. Il l'a décrit comme, je cite, « une ville très grande mais un peu ruinée ». Et bien, c'est un souvenir en demi-teinte, mais il nous livre un des rares témoignages dont les historiennes et les historiens disposent pour documenter la vie toulousaine au début du XVIIIe siècle, qui n'est pas la partie la mieux connue de l'histoire de la ville.
Tout à fait. Merci en tout cas infiniment.
Merci à vous de votre invitation et de cet entretien.
Raconter cette histoire tout à fait croustillante.
Merci beaucoup.
Et pour les détails et puis le récit de l'ambassadeur Mehmet Efendi, je vous renvoie au livre de Mathieu Grenet, 1721, Visiteur inattendu, aux éditions Midi-Pyrénéennes, dans cette très jolie collection cette année-là à Toulouse. Merci, bonne semaine.